Bonjour à tout le monde. Je ne savais pas qu'il y aurait des annonces par rapport aux revues, mais je suis très heureux que cette annonce ait été faite, surtout les revues pour enfants. Nous avons abonné notre aîné à Tournesol quand il avait 3 ans ou 4 ans, et même avec une licence en droit en poche, il lisait tous les mois Tournesol à 22 ans. Donc c'est une revue qui fait du bien aux enfants et aux grands. Je vous invite à trouver dans votre Bible 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le message ce matin s'inscrit dans la série « La Bible, le cœur de Dieu à livre ouvert ». Plusieurs dimanches et plusieurs jeudis du mois de septembre jusqu'au mois de décembre seront consacrés à ce thème. Donc je lis à partir du verset 10 de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. C'est Paul qui parle à Timothée. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égareront les autres et égareront eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut, par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Bien que nous ayons lu 13 versets, nous allons nous concentrer sur 4 versets. Les versets 14, 15, 16 et 17 de 2 Timothée, chapitre 3. Et dans ces 4 versets, je les divise en 2 parties. Étant donné que nous parlons de la Bible, eh bien, la première partie, versets 14 et 15, j'ai intitulé « La Bible et l'enfance de Timothée ». Paul sait que Timothée connaît la Bible depuis son enfance. Il appelle la Bible ici « soit les écrits sacrés », soit les Écritures. Ce mot « Écriture » se trouve une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Et quand on le lit dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui décrit à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus parle des Écritures, les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent des Écritures, Paul en parle, Pierre mentionne le mot « Écriture » parmi d'autres auteurs des livres du Nouveau Testament. Donc Timothée connaissait les Écritures depuis toujours. Et Paul veut rappeler à Timothée de qui il avait appris les Écritures. Alors ce mot « qui » en grec, la langue utilisée par Paul, est un mot au pluriel. Alors la question, mais qui a enseigné la Bible à Timothée depuis son enfance? Et la réponse, eh bien d'abord, c'était sa maman. Nous lisons au chapitre 1 que sa maman, Eunice, était une chrétienne. Nous lisons la même chose dans Actes, chapitre 16. Donc sa maman était chrétienne et elle enseignait la Bible à Timothée. On parle aussi de son papa dans le livre des Actes, mais il semble que son papa ne soit pas converti. Sa maman s'est convertie, elle a enseigné la Bible à son gamin. Mais pas seulement sa maman, la grand-mère, Louis, elle aussi était convertie. Et on peut imaginer que Mémé, Louis, enseignait la Bible à ses petits-enfants, dont Timothée. Alors, avoir une maman chrétienne est une grande bénédiction. Avoir un papa chrétien est une grande bénédiction. Avoir des grands-parents chrétiens, c'est une grande bénédiction. Et c'est elles, en premier lieu, qui ont enseigné la Bible à Timothée. Mais pas que elles. Parce que Timothée, étant élevé dans une famille pieuse juive, eh bien, il avait l'habitude d'aller à, non pas à l'école du dimanche, mais à l'école de la synagogue. Donc, il y avait aussi d'autres adultes, principalement des hommes à l'époque, qui enseignaient la Bible aux enfants. Donc, on peut dire que Timothée connaissait la Bible depuis son enfance, grâce à sa maman, grâce à sa mémé, et grâce à la synagogue. Donc, la Bible a été enseignée à Timothée depuis son enfance. La Bible a été expliquée à Timothée depuis son enfance. Et cela s'est fait et à la maison et à la synagogue. Rien de compliqué. Est-ce que vous savez pourquoi notre Église organise une école du dimanche? Eh bien, tout simplement, nous sommes convaincus qu'il est important d'enseigner la Bible à des enfants. Nous sommes convaincus qu'il est important que des enfants connaissent la parole de Dieu. Mais ceci dit, l'école du dimanche ne suffit pas. Il faut aussi que, dans la mesure du possible, et je dis bien, dans la mesure du possible, si des enfants qui fréquentent notre école du dimanche ont un ou deux parents chrétiens, la première responsabilité revient aux parents d'enseigner la Bible à leurs enfants. Et je peux vous dire que dans mes déplacements, tous les deux dimanches, dans des églises à droite et à gauche, je rencontre beaucoup de gens et je rencontre tout un tas d'attitudes différentes par rapport à l'éducation biblique des enfants. Je rencontre de bonnes attitudes. Je rencontre de bonnes habitudes. Mais parfois, j'entends des parents me dire des choses et je me dis, mais est-ce que ces parents-là prient pour leurs propres enfants? Rien ne s'est fait à la maison dans certains foyers chrétiens évangéliques. Eh bien, je pense qu'il est important, et je suis convaincu, que des parents, dans la mesure du possible, utilisent tous les moyens disponibles pour éduquer leurs enfants selon la saine doctrine, selon la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le rôle uniquement pour la maman? Eh bien, c'est une erreur sexiste, moyenâgeuse et gravissime. Ce n'est pas que la maman qui doit le faire. Si vous lisez le livre de Deutéronome, c'est le papa qui doit le faire. On ne parle pas de la maman. C'est le papa qui doit enseigner ses propres enfants la Bible. Moi, je connais un papa qui, tous les soirs, quand il est à la maison, il lit un chapitre de la Bible à son fils qui a 9 ans. Il a commencé quand son fils avait 6 ans. Donc, il a presque, je me dis qu'il a déjà lu ou presque toute la Bible au moins une fois à son fils, dans son lit. Même les guerres de un roi, de deux rois, même tous les péchés, il lit et, si possible, il explique brièvement à son enfant. Alors, quand je dis utiliser tous les moyens, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, et je ne savais pas, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire abonner ses enfants à des revues, à des journaux bibliques préparés exprès pour des enfants. Ça veut dire acheter des bons livres chrétiens à Noël Et ne nous limitons pas uniquement à Noël. On peut acheter des bons livres chrétiens pour nos enfants à tout moment. Il y a tant de matériel, tant d'outils à notre disposition. Et si vous allez à la maison de David, vous allez voir tout un rayon de livres adaptés à des enfants à tout âge. Autre chose qu'on peut faire, c'est acheter des jeux bibliques, des logiciels bibliques pour enfants. Donner la Bible en BD, ou donner la Bible tout court à nos enfants. On peut les inscrire à des concours bibliques pour enfants. Il y a 2 concours bibliques pour enfants en France. Il y en a un qui va bientôt commencer en région nantaise, et le deuxième est en Ardèche. Et il y a des petits papiers comme ça dans l'entrée des concours bibliques gratuits pour enfants, à partir de 8 jusqu'à 16 ans. On peut aussi demander des idées et des conseils à d'autres parents qui ont des enfants. On peut aussi demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment est-ce que je peux intéresser mon fils, ma fille, dans la Bible, à la Bible ? Comment faire pour qu'il ou elle ait envie de lire la Bible ?» Dans certaines familles, on peut prévoir un temps chaque semaine, un temps court, quelques minutes, non pas quelques heures, où on lit un court passage de la Bible, une histoire missionnaire, et on peut prier avec les enfants. Un moment spirituel, chaque semaine, en famille. Pourquoi pas? Mais nous avons besoin de prier pour les enfants de notre Église et pour les enfants dans les familles représentées dans notre Église. Alors si vous me dites, mais pourquoi est-ce que tu parles comme ça, David? C'est un cheval de bataille? Peut-être. Mais c'est aussi parce que l'éducation nationale, depuis des années, sinon des siècles, est en train de formater nos enfants. Dès la maternelle, sinon avant la maternelle. L'éducation nationale, les médias sont en train de, et j'ose dire, déformer la pensée, corrompre le cœur de nos enfants. Et si nous sommes des parents chrétiens, nous avons le devoir de rectifier le tir. Ou pour dire autrement, nous avons le devoir de contrecarrer tous ces messages subliminaux, parfois évidents, parfois agressifs. Nous avons le devoir de contrecarrer tout cela et de déjouer la stratégie de l'ennemi de nos âmes et de nos enfants. Et pour déjouer cette stratégie, pour contrecarrer tout ce qu'il dit notre ennemi à nos enfants, nous avons besoin d'avoir un enseignement biblique approprié pour nos enfants. Nous avons besoin de raconter des histoires bibliques, de donner une éducation biblique afin que nos enfants puissent avoir une culture biblique. Croyez-moi, c'est important, c'est vital. Et parfois, sans exagérer, c'est une question de vie et de mort. Prions, prions, prions pour nos enfants, pour l'enseignement qu'ils reçoivent ici, à l'église, et pour l'enseignement qu'ils reçoivent à la maison. La Bible est l'enfance de Timothée. Il savait de qui il avait appris la parole de Dieu. Et dans son enfance, il s'est converti. Grâce à la Bible, il a pu comprendre son besoin d'avoir foi en Jésus-Christ. Deuxième volet, la Bible est le ministère de Timothée. Verset 16 et verset 17. Alors ici, il est question de 2 choses. L'origine des Écritures et l'objectif des Écritures. Alors, l'origine des Écritures, est-ce que ce livre est tombé du ciel? Ah non. Est-ce que ce livre a été imprimé comme ça, déjà pendant la vie du Christ? Non. Il est écrit ici, les Écritures ont été inspirées de Dieu. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été inspirés de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit aux auteurs, plus ou moins, ce qu'ils devaient écrire. C'est Dieu qui a montré aux auteurs humains, et ils étaient une quarantaine, sur une période de 1600 ans, Dieu leur a montré ce qu'ils devaient écrire. Il s'agit de l'inspiration de la Bible. Alors, que veut dire l'inspiration de la Bible? Eh bien, il s'agit d'une inspiration verbale. C'est-à-dire, Dieu a parlé. Dieu a révélé des choses aux autres humains. Dieu leur a montré ce qu'ils devaient écrire. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement mis les pensées dans leur tête, mais les paroles dans leur bouche et les paroles au bout de leur plume. Une inspiration verbale. Il s'agit aussi d'une inspiration plénière ou complète ou totale. C'est-à-dire, Dieu a parlé, Dieu a révélé aux gens, et il est écrit dans ce verset, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Pas que le Nouveau Testament, pas que les Évangiles, pas que les Psaumes, pas que Genèse 1, mais toute la Bible a été inspirée de Dieu. Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 21, 1189 chapitres. 31 000 et des poussières versées dans la Bible. Une inspiration plénière. Mais il s'agit aussi d'une inspiration inhérente. Alors, si vous cherchez le mot inhérente dans votre dico, vous n'allez pas le trouver. Et si vous tapez inhérente dans votre document Word, l'ordinateur va souligner ce mot n'existe pas. Vous avez mal écrit le mot. Mais le mot inhérent, c'est un mot qui existe. Et ça veut dire que la Bible ne contient aucune erreur, aucune fraude, aucune tromperie, aucune erreur sur quelque plan que ce soit. C'est-à-dire, toute la Bible, depuis Genèse 1 à l'Apocalypse 21, toute la Bible est scellée de l'autorité de Dieu. Inhérente. Il s'agit aussi de l'inspiration infaillible. C'est-à-dire, dans les textes originaux, et nous avons des milliers de copies et de textes originaux dans les musées, dans les textes originaux, il n'y a aucune erreur. Infailliblement écrite. Le contenu est entièrement vrai, le message de la Bible est vrai et entièrement digne de notre confiance. Et cinquièmement, et pour terminer cette partie, il s'agit d'une inspiration illimitée. Pas seulement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les 66 livres, mais il n'y a aucune erreur sur le plan théologique, ni sur le plan géographique, ni sur le plan historique, ni sur le plan archéologique. La Bible était dénigrée, attaquée, critiquée sur tous ces plans. Mais petit à petit, grâce à des découvertes archéologique, on prouve tel ou tel événement dans l'histoire de la Bible. Et je peux vous dire que lorsque Napoléon est allé avec Champollion en Égypte il y a 200 ans, grâce à cela, grâce à cette guerre, on a trouvé encore des preuves qui confirment l'historicité de la parole de Dieu. Qui aurait dit qu'on va remercier Napoléon pour le fait qu'il était allé en Égypte? Mais le Seigneur dirige l'histoire du monde. Il s'agit d'une inspiration illimitée. Et par rapport à l'archéologie, dans quelques semaines, on va passer un jeudi soir sur des preuves archéologiques de la parole de Dieu. C'est un sujet passionnant et on va annoncer ça comme chaque semaine lorsque nous faisons des annonces. Mais par rapport à l'archéologie, je vous encourage à ne pas croire tout ce que vous voyez à la télé. Il y a des soi-disant théologiens qui essaye de contredire la Bible avec des soi-disant preuves archéologiques, mais ne croyez pas tout ce que vous dites à la tout ce que vous voyez à la télé, mais croyez tout ce que vous voyez dans ce livre. Parce que c'est ça, la vérité. La télévision n'est pas inspirée de Dieu. L'origine des Écritures, inspirée par le Seigneur, inspirée par le Saint-Esprit. Et puis, l'objectif des Écritures. Pourquoi est-ce qu'on a la Bible? Pourquoi est-ce que les chrétiens lisent la Bible? Pourquoi est-ce que vous lisez la Bible? On pourrait faire un sondage. Il y aura déjà un sondage tout à l'heure sur l'animation. Mais pourquoi est-ce que vous lisez la Bible? Et on pourrait donner tout un tas de réponses à cette question. Mais dans ce verset 16, il y a quatre verbes employés. Enseigner, convaincre, redresser, éduquer. Alors je me suis amusé l'autre jour à mettre 7 Bibles différentes, 7 versions différentes sur mon bureau. Et j'ai pioché les mots pour me faire un amalgame de ce que nous lisons. Et j'ai ajouté quelques idées de ma tête. Mais les idées de ma tête ne sont pas inspirées. Donc j'ai consulté, si vous voulez savoir, la Bible du semeur, la nouvelle Bible seconde 21, la colombe, le Nouveau Testament français courant, la Bible seconde, d'il y a 100 ans, la transcription d'Alfred Kuhn et la JND. À ne pas confondre avec la JDD, hein. La JND, la Bible de Darby. Et voilà quelques verbes qui résument le pourquoi de la lecture de la parole de Dieu. Je lis. Nous lisons la Bible afin que Dieu puisse nous enseigner, nous convaincre, nous redresser quand on est courbé, nous éduquer, nous instruire, nous reprendre, réfuter l'erreur, corriger nos fautes, nous former à une juste manière de vivre, nous convaincre de nos péchés, rectifier notre façon de penser, réformer notre conduite, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et on pourrait ajouter d'autres verbes. Mais tout ça pour dire que la lecture de la Bible pour un chrétien est vraiment importante, vitale, et encore, j'oserais presque dire, une question de vie et de mort. La lecture de la Bible. Ça veut dire que si nous lisons la Bible, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous enseigne, à ce que Dieu nous éduque, à ce que Dieu nous reprenne, à ce que Dieu nous corrige, que Dieu nous renouvelle, que Dieu nous redresse, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Il ne s'agit pas d'une lecture seulement intellectuelle, mais on lit la Bible avec l'intellect et avec le cœur. D'ailleurs, lorsque quelqu'un lit la Bible avec un esprit ouvert, Dieu peut parler à son intelligence, à ses sentiments, à sa conscience, à son cœur et à sa volonté. Parce que quand on lit la Bible avec un esprit ouvert, avec une Bible ouverte, eh bien, je peux vous dire que c'est un livre puissant. On compare parfois la Bible à de la dynamite. Ça me rappelle il y a quelques années, j'étais jeune chrétien, je suis sorti dans un quartier difficile dans la ville de Birmingham, en Angleterre. Il y avait eu des émeutes entre les Pakistanais, les Indiens et la police anglaise, quelques jours avant. Donc, il y avait les policiers dans la rue, sur les dents, au cas où. Et j'étais avec un chef d'équipe, on l'appelait Big John, parce qu'il était grand, et il s'appelait John. Donc, on marchait dans la rue, il avait son sac avec des traités et des bibles, et puis deux policiers viennent vers nous, et disent à John, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Est-ce que vous avez des armes? Des couteaux? Des pistolets? Des chaînes? Alors John dit, ah non, j'ai rien de tout ça. J'ai que de la dynamite. Alors il a souri. Les policiers n'ont pas souri. Moi je ne savais pas s'il fallait que je prie ou que je cours. En tout cas, il a montré que c'était la Bible et puis finalement il s'est rendu compte qu'il y a un temps pour blaguer. Il y a un temps pour ne pas blaguer. Et c'était un temps pour ne pas blaguer. Mais je peux vous dire que la Bible est de la dynamite. Ça peut faire tomber des murailles, ça peut exploser un cœur, ça peut briser des cœurs, ça peut briser des barrières dans un cœur. D'où l'importance de lire la Bible. Parce que si cette liste est vraie, et c'est vrai, eh bien, quand on lit la Bible aussi peut nous encourager, nous réconforter, nous motiver, nous exhorter, nous soutenir, nous diriger, nous consoler, j'ai déjà dit ça peut-être, nous réjouir, nous guider, nous booster, nous driver, nous regonfler, nous mettre du baume au cœur, et ainsi de suite. Encore, ce n'est pas une liste définitive. La lecture de la Bible peut faire ça et encore plus. Donc, pour conclure, je disais tout à l'heure, prions, prions, prions pour nos enfants. Je dis maintenant, lisons, lisons, lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Laissez-nous transformer par la parole de Dieu. Et il y aura un impact incroyable, pas possible, sur notre propre vie, sur notre famille, sur notre église, sur notre travail, sur notre entourage. Et si nous sommes transformés par la lecture de la parole de Dieu, eh bien, Dieu seul sera glorifié. Amen et Amen.